Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'il se réjouisse. Le pays aride, qu'il exulte, et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. L'allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur.
Viens, Seigneur, et sauve-nous. Alléluia. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Alléluia. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Alléluia. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Alléluia. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur règnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Alléluia.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience. Vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous donc allé voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. »
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Les enfants du primaire sont attendus par le père Chauvin. Frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? On se souvient dimanche dernier comment Jean avait annoncé la venue du Messie comme étant celui qui viendrait baptiser dans le feu, celui qui viendrait séparer le bon grain du mauvais. Or, dans sa prison où il est enfermé en tant que témoin de la vérité, ce que Jean entend dire du Messie qu'il a annoncé ne correspond pas du tout à ce qu'il avait prévu. En effet, Jésus n'annonce pas le feu du ciel contre les méchants. On dit même qu'il se mêle aux foules, qu'il accueille les pécheurs. Il prend même le risque de relations douteuses. Il y a de quoi troubler Jean le Baptiste, parce que tout cela ne cadre pas avec l'idée qu'il se fait de la puissance de Dieu et surtout des effets de la présence du Messie annoncé. C'est pour cela qu'il envoie des disciples pour lui poser la question la plus importante. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Nous avons ici, frères et sœurs, l'une des plus belles pages de l'Évangile. La véritable question qui sous-tend la question de Jean-Baptiste est bien celle-ci. Lorsque Dieu entre dans l'histoire humaine, quels sont les signes authentiques de son action? Oui, si le royaume de Dieu est arrivé, quelle en est la manifestation authentique? Question légitime, qui peuvent aussi être les nôtres en ces temps où nous sommes, parce que nous pourrions aussi nous demander où sont donc les signes de Dieu dans notre monde de violence, d'égoïsme, etc. Déjà au temps de Jésus, tout comme aujourd'hui, de nombreuses manifestations religieuses pouvaient être considérées comme signes de la présence de Dieu. C'était par exemple le temple dont ils étaient si fiers. C'était encore la loi, les nombreux sacrifices d'animaux qui se faisaient tous les jours, le culte, les prières qui s'élevaient à longueur de journée, la pratique du jeûne, etc. Et pour nous aujourd'hui, ça pourrait être la restauration de Notre-Dame, mais c'est aussi la croissance depuis quelques années, par exemple, du nombre de baptêmes d'adultes. Mais pour en revenir à la question de Jean le Baptiste, ce qui est remarquable, c'est que Jésus, dans sa réponse, ne mentionne aucun de ces signes, traditionnels de la présence de Dieu. Mais il offre plutôt des faits qui n'ont apparemment aucune dimension religieuse. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez, dit-il. Mais qu'est-ce que les messagers entendent et voient? Des personnes libérées de vieilles formes de servitude et leur dignité humaine restaurée. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus ne fait pas un long discours. Il se contente d'énumérer des réalités humaines tangibles. Il traduit en faits concrets ce qu'il considère être l'expression la plus claire du royaume de Dieu, c'est-à-dire la dignité humaine à laquelle tout être a droit. Et c'est en cela que Jésus manifeste qu'il est le Messie attendu, qu'il est le signe et l'instrument du salut. Son message est donc, on ne peut plus clair. Où est donc le royaume? D'une part, partout où se pose un acte de bonté qui transforme positivement la vie d'un enfant de Dieu. Partout où une décision courageuse fait reculer le mal en donnant un nouveau visage à notre société, le royaume est là. Oui, lorsqu'une personne passe d'une condition moins humaine à une plus humaine, là se manifeste l'action de Dieu, là se trouve son royaume. Tout le reste, on pourrait dire, n'est que littérature. Voilà les signes de la revanche et de la vengeance de Dieu annoncés par Isaïe dans la première lecture. Oui, Dieu ne se venge pas des humains. Dieu se venge plutôt du mal qui atteint l'homme, qui l'abîme ou l'asservit. La vengeance de Dieu, frères et sœurs, c'est à la fois la destruction du péché et la libération de l'humanité. D'autre part, quand Jésus dit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez », il livre un puissant message d'espérance spirituelle pour les cœurs inquiets. Jésus, par son action, montre que Dieu seul sait vraiment nous rejoindre dans nos réalités humaines, dans nos difficultés. Lui seul sait, de manière bienveillante, nous porter sans condition. Lui seul peut guérir la tristesse de notre société par son amour infini. Il est la lumière grâce à laquelle l'être humain peut traverser les ténèbres de sa vie, parce que la lumière brille dans les ténèbres. Se disposer donc à accueillir le Messie, c'est vouloir qu'il devienne la source du reverdissement du désert, de la terre, de la soif, du pays aride. Ces expressions qui sont synonymes de nos existences sans saveur, sans élan et sans réelle vibration. Oui, c'est croire que sa présence en nous peut étancher la soif de notre quête de sens. Par suite, frères et sœurs, quand tout vacille dans notre vie, Jésus montre que celui vers qui il faut se tourner, c'est bien lui. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ces faits témoignent indiscutablement du combat que Jésus mène parce qu'il ne veut pas que l'ombre devienne la norme de nos vies. Voilà le motif de la joie à laquelle nous invite ce dimanche, dit dimanche de Gaudete, se traduit littéralement par « réjouissez-vous ». Oui, l'impact libérateur et thérapeutique de la présence de Dieu en toute vie est motif de joie. J'aime à rappeler les premiers chrétiens de Rome, crucifiés par Néron, transformés en torches humaines vivantes. J'aime à rappeler les martyrs de l'Ouganda, brûlés dans des bûchers, mais tous chantent. Ils chantent durant leur martyre. Et c'est ce qui est étonnant. On peut se demander, mais d'où leur vient cette force? Mais parce que Dieu est présent en eux. Oui, frères et sœurs, nous avons à nous réjouir aujourd'hui parce que c'est une vraie chance pour nous d'avoir Dieu. Je me rappelle encore de cette personne âgée que je vois souvent, dont la vie n'est vraiment pas facile, elle n'est pas du tout rose. Mais à chaque fois, elle me dit, heureusement que j'ai Dieu, sinon qu'est-ce que je deviendrais? Oui, quelle chance nous avons d'avoir Dieu. Et effectivement, aujourd'hui, nous pouvons nous en réjouir. Mais nous devons prendre aussi conscience que se priver justement de cette présence de Dieu cause indubitablement la ruine de nos âmes et de nos vies. N'allons pas chercher loin, regardons un peu nos sociétés dites athées, sociétés sans Dieu. Oui, le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Nous l'avons chanté dans les psaumes. Voilà des actions concrètes qui nous disent que Dieu agit vraiment pour l'homme quand il est présent en lui. D'où l'exhortation d'Isaïe que nous avons entendue dans la première lecture. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même, il va vous sauver. Il vient lui-même, il va vous sauver. Ceci rappelle cette vérité implacable. Quand l'Église nous demande d'attendre le Messie, quand l'Église nous demande de recevoir le Seigneur, ce n'est pas une idéologie qu'elle nous vend, mais elle témoigne plutôt d'une expérience. Oui, Dieu suscite les gestes de salut pour transfigurer et les hommes et les sociétés. En revanche, il passe par nous pour opérer ses actions transformantes, car Dieu ne fait jamais le salut de l'homme sans l'homme. Et c'est pour cela que Saint Jean écrit dans sa première lettre, « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » C'est une expérience qu'ils transmettent. En conséquence, frères et sœurs, quand Jésus demande aux envoyés de Jean d'aller rapporter à Jean ce qu'ils voient et entendent, il nous renvoie à chacun de nous immédiatement. Oui, si je veux savoir quel type de chrétien je suis, je dois tout d'abord me demander si mes actions aident les personnes qui m'entourent ou avec qui j'entre en contact à se libérer graduellement et toujours plus de tout manque de liberté, de toute forme justement d'oppression. Parce que chrétien et disciple du Christ, muni de son mandat, nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle. Mais il n'y a de nouvelle qui soit vraie sans fait réel, nous dit Jésus. Une nouvelle qui ne correspond pas à un fait est un mensonge. Nous avons la responsabilité de rendre le royaume de Dieu présent dans le monde d'aujourd'hui, là où nous sommes. Mais si nous proclamons sa présence en parole sans le réaliser par nos actes, nous sommes des menteurs, nous ne sommes pas crédibles. C'est ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi, écrit Saint Jacques, en nous invitant à passer à l'action. Oui, frères et sœurs, il est bien facile de se lamenter sur les événements du monde, de critiquer sans concession l'état de notre société. Une question cruciale demeure cependant. Oui, qu'ai-je fait, moi, ou qu'est-ce que je fais pour que cela change? Le salut, frères et sœurs, n'est ni un concept abstrait, ni une idéologie désincarnée, mais c'est une expérience, comme je le disais tantôt. Il n'y aura ni ciel nouveau, ni terre nouvelle, tant que nous resterons de simples spectateurs et experts critiques de la situation sociale, et surtout de nos frères et sœurs. Il faut accepter mettre la main à la pâte. Il faut accepter nous prêter au projet de Dieu. Oui, je le redis, Dieu ne fait pas le salut des hommes sans les hommes. Relevons cependant ce que Jésus dit à propos des instruments de Dieu pour le salut. Il est dit à propos de Jean le Baptiste. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Pour comprendre davantage de cette phrase de Jésus, référons-nous un peu à la scène où il demandait à ses disciples de ne pas rechercher les honneurs, les privilèges, le pouvoir. Parce que les petits, nous enseignait Jésus, ce sont eux, les humbles qui rendent présent le royaume et c'est surtout eux qui y entrent. L'exemple de Marie, La maman de Jésus, tu pouvais chanter « Mon âme exalte le Seigneur » parce qu'il a regardé la petitesse de sa servante, nous rappelle que si nous voulons apporter la liberté dans le monde, nous devons l'introduire tout d'abord dans notre propre existence en renonçant à nos désirs de gloire, d'honneur, de prestige ou de pouvoir. La parole de Jésus implique aussi que nous devons être patients envers Dieu. Oui, je nous invite à nous engager. Mais cela ne veut pas dire que les fruits de l'engagement vont apparaître comme par enchantement. Ils se forment lentement, mais sûrement, et arrivent à maturité au temps voulu par Dieu. Regardons les agriculteurs, nous dit Saint Jacques dans la deuxième lecture. Ils savent bien qu'après les semailles, ils doivent attendre plusieurs mois avant d'arriver à la moisson. Et même si la moisson est tardive, ils doivent faire preuve de patience. Il en est de même pour nous, frères et sœurs. C'est tout au long de notre vie que nous expérimentons la présence de Dieu. C'est tout au long de notre vie que nous nous préparons à la rencontre définitive avec le Christ. Avoir l'esprit des cultivateurs, c'est avoir l'audace de la confiance et de la foi totale en Dieu. Avons-nous vraiment confiance que Dieu apporte le salut au point d'accepter de devenir signe d'espérance au cœur de la nuit de nos contemporains en quête de sens pour notre monde et pour leur vie? Demandons à Marie et à Jean le Baptiste de nous en obtenir la grâce auprès de celui qui vient et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.